5h54, Monique, on sait que la police a fouillé un dépotoir pour retrouver des indices concernant la mort présumée de M. Gilles Giasson. On pense que c'est son fils qui l'a tué et qui s'est débarrassé du corps.
C'est l'hypothèse qui est priorisée en effet par la Sûreté du Québec et les policiers ne confirment pas ce matin, Paul, qu'on a retrouvé M. Giasson. Par contre, hier, on parlait d'objets très importants qui avaient été retrouvés sur place. Mais j'ai l'information qu'il s'agit bel et bien là, d'une partie du corps de la victime qui a été trouvée en cours de recherche. C'est épouvantable de dire ça, je sais, mais les enquêteurs doivent continuer leur travail parce qu'on veut s'assurer de trouver le plus possible du corps. Et c'est pour ça qu'au moins, on sait qu'on est au bon endroit. Donc, on ne cherche pas là, en vain. On était dans le bon secteur. Ils ont fouillé toute la journée hier dans cette mare de déchets dans le site d'enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès. Et on pensait même à un certain moment être en mesure peut-être de confirmer le décès hier soir. Mais on sait que les recherches vont reprendre ce matin aux environs de 8 heures. Il faut dire aussi que la famille a été avisée. On leur a entre autres demandé de dire quels étaient les tatouages que M. Giasson avait sur son corps pour être en mesure de corroborer avec ce qui a été trouvé. C'est donc une question de temps, là. Entendons-nous, avant que tout ça soit confirmé, il y a même un camion de la morgue qui a été envoyé sur place en soirée. C'est donc dire que cet éboueur qui s'est souvenu d'avoir vu François Asselin avec un sac de vidange, insister pour le mettre à l'intérieur du camion, disait vrai. Et probablement que sans lui, sans le fait qu'il ait vu l'image et qu'il ait reconnu l'individu, qu'il se soit souvenu de ça, parce qu'il faut dire quand même que ça remontait à 11 jours, probablement qu'on n'aurait jamais retrouvé M. Giasson. Il y a donc une trentaine de policiers qui étaient mobilisés hier. On n'était pas capable de nous dire si ce serait le même type d'effectif aujourd'hui. Mais pour vous donner une idée, là, il y a deux rétrocaveuses qui sortaient des blocs de déchets enfouis jusqu'à 25 pieds de profondeur. Tout ça était compacté. Donc, il fallait décompacter ça manuellement, trier tout ça manuellement. Et ensuite, il y avait un relais entre les policiers pour leur permettre de tenir le coup. Parce qu'on le disait hier, là, les conditions de travail sont assez épouvantables, merci. Et bien sûr, trop tôt pour porter encore de nouvelles accusations contre le fils de M. Giasson.
Et les Boire a fait ça pour 20$, lui, pour prendre le corps. Ben, en fait, il ne savait pas, mais le sac, évidemment, pour 20$ pour... je sais pas, moi, quelqu'un qui
insiste...
Parce que
ce n'était pas la bonne journée de la collecte, non. Effectivement. Ouais. Je pense que les éboueurs qui ont entendu cette histoire-là vont peut-être... Parce que c'est pas tous les jours, là, quand même.
Non.
Quand quelqu'un vous tend un sac de vidange, la première idée, j'ai l'impression que c'est pas qu'il y a un corps à l'intérieur. Donc, voilà.
Mais tu te demandes pourquoi quelqu'un insiste tant que ça. Là, mais remarque, ouais. Tu peux aussi. Recours collectif des courageuses qui est autorisé là, contre Gilbert Ozon.
Oui, recours civil autorisé, ça signifie quoi? Qu'il va y avoir un procès au civil, qu'un juge va entendre toute la preuve et qu'il devra trancher par la suite. Et si les courageuses ont gain de cause, elles vont pouvoir à ce moment-là être indemnisées. On parle d'un montant qui pourrait s'élever à 10 millions de dollars qui va être ventilé selon les dommages subis. Mais c'était vraiment une première bataille que les courageuses ont remportée hier. C'est la première fois qu'un recours collectif est autorisé contre un seul et même individu et non pas, par exemple...
Une communauté religieuse,
comme on a vu avec les Frères de Sainte-Croix, ou une compagnie, par exemple. Et la majorité des arguments qui avaient été avancés par les avocats de Gilbert Ozon ont été complètement rejetés par le juge Donald Brisson. L'argument, par exemple, comme quoi charmer en utilisant son pouvoir n'est pas une faute, ou encore que beaucoup de choses peuvent se passer entre les deux oreilles de la supposée victime, lui a qualifié ça de banalisation grossière et déformée. Et Patricia Tulane, bien sûr, qui est la représentante du groupe, était plus que soulagée quand elle a appris la nouvelle hier. Elle est consciente, cependant, que la route est encore longue avant de voir une décision finale tomber.
Moi, je vais devoir témoigner. Plusieurs de ces femmes vont témoigner pour être en mesure de démontrer que M. Ozon agissait de façon systématique et utilisait son pouvoir pour perpétrer des agressions. Mais M. Ozon aussi devra témoigner. Ce n'est pas seulement comme dans un procès criminel où l'accusé n'a pas à témoigner. Dans ce procès-ci, il va être obligé de s'expliquer. Pour les victimes, c'est une avancée en la matière parce que c'est plus facile de faire valoir nos droits. Après, ce sera au juge de décider.
C'est la grande différence avec un procès criminel, en fait. C'est que Ozon sera appelé à la barre des témoins. Il n'est pas, par exemple, droit au silence et la preuve ne doit pas être faite uniquement par la couronne. Là, c'est vraiment une preuve qui sera faite
c'est
des deux côtés.
C'est la prépondérance
50+1, exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été autorisé, parce que la force du nombre pourrait éventuellement démontrer un certain modus operandi.
Merci. On est tout près de 6 heures. Tunnel La Fontaine-Marc.